je serai élu, cannelle abattue. Je suis écœuré, j'ai envie de vomir.
Je me pose la petite question suivante. C'est si un SDF était décédé, est-ce qu'il y aurait eu autant de réactions que pour l'ours? C'est tout. À la prochaine.
Bonjour, c'est Emma à l'appareil. Aujourd'hui, 3 novembre 2004, premier jour de détention pour 300 millions d'Américains, dont une bonne partie d'abrutis finis. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas.
Bonjour, c'est Hélène de Bordeaux. Juste pour proposer d'envoyer à Monsieur George W. Bush des cargaisons de bretzel pour fêter sa victoire à la Maison Blanche.
Bonjour, c'est Béatrice de Lyon. Je réagis à une auditrice d'aujourd'hui, là, du 4 novembre, qui prend les Américains pour des bœufs. Ben, je sais pas, moi, 50%, en plus, on n'est même pas sûr que ce soit vraiment Bush. Je sais pas, je trouve qu'on s'emballe un peu, l'anti-américanisme est de retour. Bon, nous, on a quand même élu un gros connard à 80% en France, hein. Faudrait peut-être se le rappeler de temps en temps. Voilà, ciao. Et puis, espérons quand même qu'on s'en sorte. À dans 4 ans.
Oui, bonjour, c'est Pauline de Paris. Je trouve que haïr quelqu'un, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est quand même un sentiment extrêmement grave et qu'on doit considérer au cas par cas chaque personne qu'on décide de haïr et pas balancer sa haine à la gueule d'un peuple tout entier, parce que c'est ce qu'on appelle du racisme en fait. Et si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que j'entends beaucoup de réflexions, et notamment sur ce répondeur, des réflexions de personnes qui sont extrêmement méprisantes et violentes à l'égard du peuple américain. Et moi, j'ai pas eu l'impression que cette série d'émissions sur les États-Unis ait pour but de démontrer à quel point c'était un peuple stupide. Et j'ai plus pris ça comme une incitation à comprendre une culture qui a des codes, une histoire et des mécanismes totalement différents des nôtres. Merci, au revoir.
Je suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral à zéro. Ouais, je me suis endormi comme un enfant avec des chimères de pères couvrés. Et je me réveille avec les évangélistes et l'ombre du shérif du monde, toujours droit dans ses bottes. Mais il paraît que quelques versets bibliques aident à l'endormissement. Et puis, c'est tellement tendance. C'était Fred, de Marseille.
C'est Pierre de Limoges. Ouais, ce triomphe de Bush, là... Ça prouve une chose, ce système-là, ce système politique, ce libéralisme, ce conservatisme, ça rend con, ça rend bête et méchant, ça fabrique de la connerie. Avec l'aide de ces médias, comme la Fox là-bas, ou comme TF1 ailleurs, de toute façon, il a intérêt à fabriquer des cons. Comme ça, il peut diriger la population comme il veut, à sa guise, la mener par le bout du nez, lui faire prendre les vessies pour les lanternes. Et oh, rigole pas, chez nous, ça vient. Lentement, mais ça vient. Allez, courage, ça va s'arranger. Mais pas aujourd'hui. À bientôt, salut.
Voilà, je voulais féliciter Bush et toute son équipe pour sa réélection. Nos libéraux doivent être très très contents, parce que grâce à cela, ils vont pouvoir nous expliquer comment il faut à tout prix adopter la Constitution européenne pour pouvoir lutter contre l'Amérique, bien sûr. Et dans cette constitution européenne, il ne faut pas oublier qu'il n'y a absolument rien, ou presque, sur le social. Voilà, donc bravo messieurs les libéraux, vous avez encore gagné une fois de plus. C'est pas mal le bourrage de crâne, mais un jour ou l'autre, tout le monde finira bien par s'en apercevoir. Voilà, c'était Jean-Louis de Laval qui vous salue à tous. Au revoir.
Salut Daniel. Famille, travail, religion selon Bush. Famille, travail, patrie, selon Pétain et l'UMP, cherchez la différence. Allez, longue résistance à nous. C'est Monique de 7. Ciao, ciao.
Faut pas tout voir en noir. Y a quand même un truc bien, c'est qu'on va pouvoir être anti-américain, couvert de l'anti-américanisme, sans aucune retenue. C'est vachement plus pratique, quand même.
C'est Hélène Delin. Alors, on a Poutine en Tchétchénie. Bush en Irak, Poutine réélu, Bush réélu, Poutine soutenez Bush, tout va bien. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, L'international le sera le genre humain. C'est navrant, mais c'est comme ça. Au revoir.
Voilà, c'est les messages du jour sur le répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. Beaucoup pour dire oh bah oui, c'est pas terrible les résultats des élections américaines, mais enfin nous en France, avril 2002, etc. Ça, ce thème est revenu souvent dans vos messages, et il y en a beaucoup d'autres. Aujourd'hui, avec Olivia Gesbert, on retourne sur une histoire qui a eu lieu dans un quartier de Montpellier, une cité de Montpellier qui s'appelle le Petit Bar. Et là, le 13 juin dernier, il y a eu un drame épouvantable. Il y a un homme qui est mort, asphyxié, à la suite d'un incendie dans son appartement, dans cette cité particulièrement délabrée et qui relève de ce qu'on pourrait appeler l'apartheid urbain. Et la suite de cette mort terrible, de ce drame terrible, les habitants de la cité se sont mobilisés, ils ont lutté très très courageusement, et on va suivre leur histoire, revenir sur cette histoire pour découvrir que c'est une lutte qui n'a pas échoué. Voilà, donc ça risque peut-être de nous remonter provisoirement au moins le moral. Auparavant, un autre message sur le répondeur de la base, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
5 novembre 2002, fermeture du camp de Sangatte. Nous ne laisserons personne dehors, avait dit le gouvernement. 5 novembre 2004, toujours 250 à 300 migrants chassés de leur pays par la guerre et la misère, errent à Calais, dans le dénuement le plus total. Leurs abris faits de branchages et de plastique sont détruits. Épuisés, vulnérables, anonymes jusque dans la mort. Pas de solution, la réponse de l'État, la répression policière. Leur seul soutien, le collectif C'est Sûr, soutien d'urgence aux réfugiés. L'hiver arrive, la situation est préoccupante, nous manquons de tout. Couverture, sac de couchage, vêtements chauds, nourriture, produits de toilette, dons. Merci de votre écoute, de votre soutien et de votre solidarité. Les contacts, le collectif d'urgence aux réfugiés avec l'association La Belle Étoile, 18 rue Dampierre, 03 21 36 45 50 le téléphone. L'association Salam, Maison pour tous, boulevard Jacquard, avec le téléphone 06 70 55 14 55. Merci de me passer le message, l'équipe de l'Ambassade, j'y suis, je vous admire. À bientôt, au revoir, c'est très important, merci.
Cali Jackleff, j'habite bâtiment 2-8. C'est pas très joli, c'est des appartements très, très petits, très vieux, et sans salle. Et dedans, les cuisines, on dirait des toilettes. J'aime pas le petit bar. Dans le bloc, il y a du feu.
C'est invivable. C'est la pourriture totale. Ah ouais.
À éviter, si vous voulez. Je le connais pas, je n'y suis jamais mis les pieds. Mais enfin, je le connais que de réputation.
Tu sais, j'ai trop de dédos dans la teuté, là. Je peux plus parler, là. Je suis trop fonce-taille, s'il te plaît.
Il y avait un mort, là, il était tout cramé.
Si aujourd'hui le petit bar puisse s'organiser, ça serait un exemple extraordinaire, je pense, d'auto-organisation des quartiers et de sortie de ce système ghettoisation et de cet assistanat assez vicieux, en fait.
Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie. Monsieur, et les bandits. Ah oui.
Ouais, alhamdoulilah, France Inter, tu veux parler, Mohamed?
Salut, c'est Daniel Mermet, la base où j'y suis avec Olivia Gesbert, les habitants du Petit Bar.
Flight number 2, arriving from New York.
Là-bas où il y a les gitans, où il y a le feu et tout.
Alors, la rue du 30, c'est là où il y a le feu.
Oui, il y avait un mort là, il était tout cramé.
Ah là, je suis rue des Trolls.
Oui. Attends, tu vois le deuxième bloc là-bas? Ah ben, il y aura un grillage.
Raconte-moi, mais il y a combien d'étages sur cet immeuble ?
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est là-bas où il y a le grillage gris, ah ben, il y avait le feu.
Et là, c'est le plus haut immeuble de la cité ?
Non, c'est la tour là-bas.
Il y a une tour qui est encore plus haute que ça ?
18 étages.
Il y a une grille, ça veut dire qu'on peut plus rentrer ?
Ça, ils ont fermé.
Banlieue, quartier, délinquance, insécurité. Qu'est-ce que vous voyez quand vous entendez ces mots ? Je répète, banlieue, quartier, délinquance, insécurité. Et bien sûr, oui, vous voyez la banlieue, et ben, vous pensez à Neuilly. Le quartier, vous pensez à Passy. La délinquance, vous pensez col blanc, détournement de fonds publics, délits d'initiés, paradis fiscaux. Et quand je dis insécurité, bien sûr, vous songez multinationales, plans sociaux, délocalisation, restructuration. Voilà, non ? Ah bon, non, tiens, c'est curieux. Non, je plaisantais, rassurez-vous, camarades privilégiés, bobos de tous les pays, c'était juste histoire de dire ce que ne disent pas les mots, le sous-entendu, l'induit. Mais rassurez-vous, banlieue, c'est bien sûr la zone, quartier, c'est bien sûr ghetto, délinquance, c'est bien sûr jeune rebeu, car l'insécurité, c'est bien nœud. Population dangereuse, disait-on à la fin du 19e siècle. Population dangereuse, ça nous effraie, ça nous attriste, mais dans le grand bond en arrière, eh bien, où nous sommes, ça nous étonne de moins en moins. On est bien loin de penser que les populations dangereuses sont avant tout des populations en danger. Les populations dangereuses sont avant tout des populations en danger. Population en danger, les habitants du Petit Bar. Petit Bar, si vous connaissez Montpellier, ça fait partie des quartiers maudits, des quartiers dangereux, des quartiers relégués de l'apartheid urbain. Beaucoup de villes de France ont ces quartiers maudits, le quartier où il faut pas aller, le quartier qui a mauvaise réputation. Et très souvent, oui, c'est eux qui sont là-bas. C'est la drogue, c'est le mal. Et il s'est trouvé que dans ce quartier du Petit Bar, à Montpellier, le 13 juin dernier, j'en parlais à l'instant, comme je l'évoquais, il y a eu ce drame terrible de cet homme qu'on a retrouvé mort, asphyxié, à la suite de l'incendie d'une partie de l'immeuble. À la suite de ça, il y a eu une mobilisation des habitants, d'associations, de militants divers et variés, une lutte qui a duré une quarantaine de jours, à l'issue de quoi les autorités, les pouvoirs publics ont réagi et ont réagi favorablement en promettant, plus que des promesses, de reconstruire et de réhabiliter ce quartier. Voilà, c'est l'histoire donc d'une lutte qui a abouti avec quelque chose évidemment d'exemplaire dans le sens d'une auto-organisation des quartiers. Je parle comme on parle au MIB, on va rencontrer des militants du MIB. Sortir, on le disait à l'instant, de cette ghettoisation et sortir aussi d'un assistanat vicieux, vient de dire ce militant. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Olivia Gesbert jusqu'à 18h. Là-bas, si j'y suis, France Inter.
N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura. T'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi? la bavure
et décoller au mur.
Et dans ce tas d'ordures,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi?
Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi? Y aura-t-il les langues de bois? Des selles en tout cas, y en aura. Du sang qui coule, y en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi, t'es qui, t'es quoi? Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi, y aura-t-il les langues de bois des ciels, en tout cas y en aura, du sang qui coule, y en aura pas.
Il n'était qu'une fois où ça ne finira, mais tout ça,
c'est entre toi et moi.
Bah, je suis perçu, si vous voulez, comme un quartier évité à ne pas habiter surtout. J'ai pas habité et je n'aurais pas voulu y habiter. Et mon fils, à un moment donné, a cherché une villa. Je lui ai dit qu'elle était trop proche du petit bar et je lui ai dit d'éviter. On reproche, si vous voulez, d'abord d'être très détérioré. Ensuite, si vous voulez, je voudrais pas faire de racisme, mais il est habité, si vous voulez, par des gens qui, dont beaucoup ne travaillent pas. Et si, disons qu'il y a la casse dans le coin, quoi. Le problème, si vous voulez, c'est que comme je vous l'ai dit, compte tenu de la population qu'il y a là-dedans, je pense que c'est une population qui a dégradé les bâtiments. Dangereux, peut-être pas, mais à éviter. À éviter, si vous voulez. Je ne le connais pas, je n'y suis jamais mis les pieds. Mais enfin, je ne le connais que des réputations.
C'est à Montpellier, mais ça pourrait être ailleurs. Ce monsieur rencontré par hasard nous dit exactement la façon dont se passe cet apartheid, hein, cet apartheid urbain entre ces quartiers ghettos que nous connaissons, ou plutôt que nous ne connaissons pas, dont voyons les images de temps en temps, quand de hardis reporters s'aventurent jusque-là, mais c'est souvent, évidemment, ces images de ségrégation, apartheid urbain et ségrégation, la ségrégation sociale qui va avec. On va tout de suite visiter l'immeuble où le drame s'est produit avec Omeya Sethi, qui est un militant du mouvement du MIB, du mouvement de l'immigration et des banlieues, pour se donner une idée de l'état de ces immeubles, d'un de ces immeubles.
Tu peux descendre à la cave, jeter un coup d'œil. Il n'y a pas de lumière, c'est ?
Non.
Donc là, on est dans la cave du numéro 6, qui ressemble exactement à celle du numéro 4, qui est condamnée.
Et il y avait des trous
pour faire communiquer les caves entre elles. Voilà.
C'est l'humidité qu'on entend ?
Oui, et ça, c'est les câbles électriques. C'est les câbles électriques qui courent là, et qui court dans les conduits du vide ordure.
L'incendie dans l'immeuble à côté
provient d'un court-circuit dans les fils, qui, étant donné le fait qu'il n'y a aucune des normes de sécurité qui est respectée, le feu a pris très rapidement, c'est-à-dire qu'il a pris au deuxième étage, et très très rapidement, le feu est arrivé jusqu'au huitième, au point que Houssine Eloi-Marie, donc la personne qui est décédée, il est mort asphyxié. L'état de l'immeuble à côté en question, c'est le même que celui-ci. C'est-à-dire, là, il y a toutes les conditions, selon nous, pour qu'il se passe la même chose, le même drame qu'à côté. Et nous, on considère que ça, c'est une mise en danger d'autrui. Il y a deux barres comme ça. Donc, deux barres avec 10 cages d'escalier de 11 étages dans la cité, plus une tour. D'ores et déjà, il semble que les pouvoirs publics et les experts qui ont fait des expertises reconnaissent qu'il y a une situation de danger, au moins dans les deux barres et dans la tour. Là, il y a des vides ordures. Et les câbles électriques courent dans le vide ordure.
À droite de l'ascenseur.
Dans la cave, On a fait constater par huissier que les extincteurs qu'il y avait, et qui apparemment il n'y a plus, leur date de péremption, c'était 86. Pour le quartier, si vous voulez quelque chose se passe, faut qu'on passe quelque chose tous ensemble là.
Moi je souhaite.
Vous étiez là en juin, juillet.
Oui.
Ça s'est réglé pour la cage à côté.
Pour les cils aussi, bien sûr.
Mais bon.
Ça fait 14 ans que je suis là, dans le même bâtiment. Tous les soirs j'ai peur. Regardez, cette lumière, ça fait 8 mois qu'on n'a pas d'ampoule là. Ça fait 8 mois que mes parents, ils n'arrêtent pas de réclamer. Ils arrivent le soir, ils ne savent même pas où mettre la clé. Moi, je paye 105 euros par mois de charge. 3,9,3.
Et sans indiscrétion, le loyer est de combien à peu près?
Il est de 200, presque 300 euros. En tout, je paye 432 euros en tout. Parce que vous allez ailleurs, ils ne vous acceptent pas. J'étais RMiste. Mon père est au chômage, là il vous demande deux garants et tout ça et tout ça. Mais bon, il est en mauvais état, je leur dis de refaire, ils n'ont pas voulu refaire. Soit je prends l'appartement comme il est, soit je suis dans la rue. C'est ça le problème.
Alors Marie, allez.
Vous habitiez dans l'immeuble qui a brûlé ce fameux 13 juin 2004.
Oui. Au soutien. Hussein, c'est mon frère. C'est lui qui est mort.
Il habitait aussi au 7e étage?
Oui, il habitait avec moi toujours.
Il était un peu plus jeune en fait. C'est votre jeune frère?
Hussein 2. Je reste seul.
Voilà, donc ça c'est le frère de Hussein El Ouamari, ce jeune homme qui est mort dans cet incendie le 13 juin dernier dans ce quartier du Petit Bar à Montpellier, dans la rue Troll. Ça fait joli, hein, Troll, on pense à des personnages enfantins. Non, ça ne correspond pas du tout à l'endroit où nous sommes, mais à ce qui s'y est passé. C'est assez grand, hein, le quartier du Petit Bar, c'est quand même 815 familles, c'est-à-dire 5000 personnes qui vivent dans ces conditions. La plupart du temps, ce sont des populations originaires du Maroc, mais ça fait partie de ces immeubles, de ces bars, de ces cités construites dans les années 60 pour accueillir les rapatriés d'Algérie. Alors, on va suspendre ce reportage quelques instants pour donner la parole à nos confrères de la rédaction qui vont nous parler de ce qui est en train d'arriver à Yasser Arafat. Et c'est Denis Astagnaud qui prend l'antenne.
Yasser Arafat serait mort, c'est ce qu'annonce la télévision publique israélienne et la radio militaire israélienne. Il n'y a pas d'autres sources pour l'instant. Le président de l'autorité palestinienne se serait éteint à l'hôpital Percy de Clamart. Il était hospitalisé depuis vendredi dernier en France pour des examens de sang. Cette nuit, son état s'est brutalement aggravé. Il aurait sombré dans le coma. En début d'après-midi, Jacques Chirac lui a rendu visite. L'Élysée assure qu'à ce moment, il était encore vivant dans les territoires palestiniens. Les responsables de la sécurité ont été convoqués à une réunion d'urgence. L'armée israélienne s'est mise en état d'alerte. Je pense que nous allons aller tout de suite à Jérusalem où nous rejoignons Isabelle Dor. Isabelle, est-ce que vous avez des informations complémentaires, Isabelle?
Allô?
Isabelle Dor, est-ce que vous m'entendez?
Allô, vous m'entendez?
Oui, je crois qu'on avait un petit problème de liaison avec Jérusalem pour l'instant. Jérusalem, Isabelle Dor, est-ce que vous m'entendez? Ah, il y a un petite, oui, des difficultés.
La mort de Yasser Arafat, il était 18h20 exactement, mais elle n'a pas cité de source officielle. Toutes les informations venaient de Paris. Alors il faut savoir que le gouvernement israélien est tenu au courant minute par minute de l'évolution de la situation. Supputant que la fin est proche, Ariel Sharon a convoqué un cabinet restreint et il a ordonné à ses ministres d'être joignables à tout moment. Il leur a également demandé de s'abstenir de tout commentaire sur la succession de Yasser Arafat et sur les affaires intérieures palestiniennes en général. Le premier ministre a répété ce qu'il avait déjà dit quand Yasser Arafat est tombé malade. Quoi qu'il arrive, la situation, quelle qu'elle soit, ne remet pas en cause l'application de son plan de retrait de Gaza, ni son agenda. L'armée est également en état d'alerte élevé. Les checkpoints ont été réactivés. Et demain, il faut savoir que c'est vendredi, le dernier jour de Ramadan, et que des milliers de Palestiniens sont attendus sur l'esplanade des mosquées, et qui est le troisième lieu saint de l'islam. Yasser Arafat Charles aurait bien voulu être inhumé sur ce, à cet endroit-là. Il en a plusieurs fois émis le souhait. Maria Sharon l'a encore répété tout à l'heure. Il est hors de question qu'il soit inhumé sur le sol israélien et encore moins à Jérusalem.
Isabelle Dore, donc notre correspondante à Jérusalem. J'ajoute qu'Ahmed Korail, parce que les informations sont extrêmement contradictoires pour l'instant, Ahmed Korail, qui est le premier ministre palestinien, dément, lui, qu'Arafat soit cliniquement mort. Peut-être que le terme clinique est employé à dessein. Peut-être avons-nous davantage d'informations à l'hôpital Percy, à Clamart, où nous rejoignons Agnès Bonfillon.
Oui, non, absolument pas pour l'instant, Denis. On devrait en avoir d'ici à peine quelques minutes. Là, c'est vraiment la cohue. Toutes les barrières sont en train d'être installées pour que les centaines de journalistes qui se trouvent sur place puissent accéder à l'information. Quelqu'un va parler, ça, on en est sûr maintenant, d'ici quelques minutes. Un micro est là, les officiers de presse militaires parlent aux journalistes en leur disant de rester calme. Vous imaginez la cohue qu'il peut y avoir. Des centaines de journalistes étrangers aussi hein, sont là. On a finalement, c'est assez absurde comme situation, on est tout près de l'événement et on est vraiment très loin. Ça fait plusieurs heures qu'on n'a aucune information concernant l'état de santé de Yasser Arafat. On nous parle effectivement de coma, on nous parle d'état désespéré, mais pour l'instant l'équipe médicale n'est pas venue nous le dire et je pense que ça va être effectivement le cas d'ici quelques minutes, hein, comme je vous le disais. Évidemment, dès qu'on a cette information, on vous la livre.
Merci Agnès Bonfillon, donc en direct de l'hôpital Percy à Clamart dans la région parisienne. J'ajoute que c'est un hôpital militaire et que pour l'instant, d'après notre reporter Stéphane Faure, le service de presse de l'armée française dément qu'Arafat soit cliniquement mort. Ce sont les dernières informations que nous détenons pour l'instant. Et donc nous vous donnerons davantage d'informations dans le journal de 18h que nous présenterons avec Bruno Duvic. Retour avec Daniel Mermet.
Retour à Montpellier, retour dans ce quartier du Petit Bar, retour sur cette affaire et sur cette lutte de juin et juillet dernier. Donc je le rappelle, le 13 juin dernier, dans ce quartier délabré, ce drame terrible, cet homme qui meurt dans un Houssin El Ouamari, 31 ans, meurt asphyxié en tentant de sauver sa nièce dans l'incendie d'une cage d'escalier dans cette rue Troll dont nous parlions tout à l'heure. Et à la suite de ça, eh bien, il y a une mobilisation des habitants du quartier avec les associations qui se mobilisent, le MIB, la CIMAD, et cette lutte, eh bien, va porter ses fruits, aboutir pour une fois. Ça aboutit, on ne perd pas toujours, et les autorités, les représentants de l'État, de la municipalité aussi de Montpellier, ont fait des promesses, je disais, plus que des promesses. Pour l'instant, donc, retour dans cet immeuble avec le frère Ali, le frère de Houssin El Ouamari, 31 ans, je le rappelle, la victime.
جيت عند قلت له راه حسين انا مات قال راه هو كنت في هاد الساعه جات عندهم قلت له خصك تقول لي لا فيغيتي شنو درا ما مات قال راه مات
ils l'ont annoncé en fait ils ont vu que c'était Hussein qu'après la fin de l'intervention des pompiers qui n'ont
pas voulu dire que Hussein était mort.
Je pense qu'ils voulaient pas le choquer ou peut-être ils voulaient pas qu'il y a qui a la panique dans le quartier, quoi.
Je sais pas, mais...
Il a envie de s'éloigner de ce quartier. Parce qu'il a mort de son frère dedans, tout ça. Il préfère s'éloigner, oublier ce qui s'est passé.
Et en même temps, il y a un collectif qui s'est formé samedi. Et on vous a vu à la réunion pour le collectif des familles du Petit Bar.
Ouais,
donc vous restez quand même engagé dans le
ouais,
combat.
Moi, je reste toujours... Oh, comment est-ce que moi, je...
Non.
ما سكنت تما سنروح كنت ساكن تما Il
dit oui, mais moi j'ai perdu mon frère là-bas et je veux pas que ça se déclenche ailleurs. Qu'il y a la même chose qui se répète pour d'autres.
Pour les autres.
Voilà, il veut se battre pour qu'il n'y ait pas d'autres drames comme celui de son frère.
C'est El Garras Bouchta, à 4h20, à peu près comme ça. Non, à 5h20, pardon. Et moi, je chauffe le café à la cuisine. Il y a un moment, et les gosses sont entrés, 5 minutes. Et je commence, je bois mon café, j'installe le dehors de fumée, quoi. Je passe à la cuisine, je trouve la gazinière, il est fermée et tout. Je tourne, je trouve le fumée derrière moi, devant la porte. Et j'ai eu de la chance, beaucoup de la chance. Et le bon Dieu, il est avec nous. 5 minutes, il y a le feu derrière mes gosses. Si jamais qu'ils trappent le feu au censeur, peut-être qu'ils seront morts les cinq. Comme il est mort, le monsieur qui est mort au escalier. Mais et après, là, ça commence le feu. J'essayais pour sortir, j'arrive pas. Bah, je ferme la porte, je commence, je calme les gosses, ma femme et tout ça.
C'est que la chance, c'est que les enfants étaient revenus 5 minutes avant.
Cinq minutes avant.
Et là, il est vide, l'appartement?
Il est vide. Toutes les cages d'escalier, c'est vide. Et c'est fermé avec un clé. Et on continue à payer. Et en plus, le syndic, il voyait, chaque 3 mois, il m'envoyait le courrier comme quoi pour que je paye la charge. Quelle est la charge que je paye?
Depuis le mois de juin, il vous envoie encore des courriers pour les charges.
Ah ben, je paye pas. Ah non, je paye. Pourquoi je paye la charge? À quoi ça sert?
Ça, évidemment, les habitants du petit bar sont scandalisés par ces charges qu'on leur fait toujours payer. C'est une histoire assez terrible. C'est une copropriété privée, en fait, ce petit bar. Et le syndic et les syndics de copropriété ont fait payer aux habitants, donc je disais généralement des gens d'origine marocaine, des charges absolument et des frais absolument prohibitifs en dépit du délabrement de cet ensemble. Alors, il y a l'ensemble a été placé sous administration judiciaire en 2001, donc il y a 3 ans, mais ensuite il y a un conflit assez trouble entre la ville et l'État qui dure depuis des années avec des renvois de responsabilités, et il a donc fallu ce drame terrible du 13 juin dernier pour que les habitants se prennent en main, se mobilisent, luttent et qu'enfin les autorités réagissent. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, évidemment, c'est son caractère exemplaire, et c'est que des quartiers comme celui-là, comme le petit bar à Montpellier, ben il y en a pas mal en France. Histoire, évocation, passé de ce quartier avec Omeya du MIB.
Alors, le petit bar, c'est l'histoire d'un quartier populaire. C'est un quartier qui a été construit en 1962 pour accueillir les rapatriés d'Algérie, les pieds noirs, donc, qui affluaient dans la région et qu'il fallait loger très rapidement. Aujourd'hui et au fil des années, la composition de la population a beaucoup changé. Les gens qui se sont mis à habiter là-bas et qu'on a logé là-bas sont les immigrés marocains pour la plupart. Beaucoup d'ouvriers agricoles, beaucoup d'anciens mineurs de la région d'Alès. Et voilà, aujourd'hui, il y a une écrasante majorité de Marocains, une grosse minorité de Gitans, et puis une toute petite minorité de gens d'un petit peu partout. Alors, l'écrasante majorité sont soit chômeurs, soit travailleurs du bâtiment. C'est-à-dire Montpellier... La nouvelle Montpellier a été construite par les ouvriers en question, dont beaucoup ont travaillé au noir. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un très très gros taux de chômage. C'est une cité qui est assez grande. C'est, selon le ministre du Logement, enfin le secrétaire d'État au Logement, la plus grande copropriété de France. Elle regroupe 860 logements. dont 814 sont occupées à ce jour, ce qui fait officiellement autour de 5000 personnes, mais en réalité plutôt vers les 6000. Voilà. C'est une cité qui date de 1962, mais qui a la particularité de ne pas avoir du tout été entretenue. Il n'y a presque pas eu de travaux de réhabilitation, d'entretien, etc. Et donc qui est extrêmement dégradée parce que elle n'a absolument pas été entretenue et elle a été reléguée dans des conditions comme vous pouvez le constater, sont absolument lamentables. Et il n'y a pas eu d'entretien alors que les charges sont extrêmement élevées. C'est dans l'agglomération de Montpellier l'endroit où les charges sont le plus élevées.
Et alors il y a un événement, une date clé, un jour qui a un peu changé la vie de cette cité.
Oui, en fait c'est l'événement qui a fait basculer l'histoire du quartier, mais bon, c'était pas un événement exceptionnel. Tu parles de l'incendie qu'il y a eu le 13 juin dernier, le 13 juin 2004. L'accident a été plus douloureux et plus fatal parce qu'il y a eu un mort et l'ensemble d'une cage d'escalier a été détruite, mettant plusieurs familles, presque une vingtaine de familles à la rue et tuant Houssine El Ouamari dans un appartement incendié.
Et là, les habitants vont se mobiliser, ils vont manifester, ils vont occuper un gymnase voisin et la lutte va durer 40 jours jusqu'à ce que les pouvoirs publics les entendent enfin. Abdennadour habite depuis 22 ans, a vécu pendant 22 ans dans cette cité du Petit Bar à Montpellier.
Donc le 13, on m'appelle, on me dit il y a une émeute. Donc j'arrive sur l'avenue de l'Odève, je vois bon les camions de policiers, enfin de CRS et tout ça, je les vois tous armés, enfin prêts à charger, et il y avait bon des échauffourées, les jeunes jetaient des cailloux et tout ça. C'est là où je suis un peu intervenu quoi, en leur disant bon, je leur expliquais, je leur ai dit écoutez, ce qu'on peut faire, c'est il y a une situation, on l'analyse. Avec ce qu'on peut, on l'analyse et on essaie d'y rapporter une réponse. C'est-à-dire la réponse, c'est pas, on va pas rentrer dans le jeu de brûler des voitures, c'est qu'il y ait une revendication claire de ce qui est demandé. Alors, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on peut pas faire. Bon, et après il y a eu l'aventure, il y a eu ces 40 jours de lutte, c'est-à-dire 40 jours de lutte où Maya, il a retourné la ville de Montpellier. Tout le monde s'y est mis. Moi, je me suis retrouvé avec des personnes de 65, 70 ans à coller des affiches à 3 heures du matin et des jeunes de 12 ans porter le seau. Il y a eu une prise en main, hein, une vraie prise en main. C'est-à-dire tout le monde a mis la main à la pâte. Les pouvoirs publics, ils voulaient pas du tout entendre que les 21 familles se sentaient en insécurité. Ils avaient même du mal à discuter, mais même à entendre, quoi. Si, c'est un peu comme les films, les livres d'Albert Camus, où on n'est que des silhouettes, tu sais. Il n'y a pas de sentiment, quoi. Tu sais, on serait un peu déshumanisé. On est là, mais sans parfum, sans relief, sans, tu vois. Et on a dit non, on n'est pas abstrait. Enfin, il n'y a pas que de l'abstrait. Il y a une réalité. Il y a des mots. Il y a des phrases qui vont sortir. Et même, un peu de bouquin. Donc, il y a eu occupation. Je te donne dans le désordre. Occupation des HLM, occupation de l'OPAC, siège social de l'OPAC, avec évacuation du personnel. Tout ça dans des formes très, comment dire, très civique, quoi, hein, très civique. Un peu, mais ça me fait penser à l'Oklahoma des années 60, hein, du début, tu vois, un peu le Mississippi, dans les années 60. C'est, on est quand même au sud, ici, hein, c'est un peu le sud. Voilà, occupation de locaux, bouclage d'avenues, deux grosses manifs, on a fait descendre, enfin.
Dans le centre-ville. Et qu'est-ce que la mairie proposait? C'était simplement de nettoyer un peu et de reloger les familles au même endroit,
ouais,
c'était ça?
Ouais. De rafistoler, c'est-à-dire de dire, mais non, on va vous mettre deux coups de peinture et vous y retournez. Donc, nous, on a dit, bon, mais écoutez, là, en réalité, c'est pas possible parce que c'est traumatique comme histoire. C'est pas possible qu'une réponse aussi légère soit donnée. Ça a duré 40 jours. Je veux dire, il a fallu 40 jours au pouvoir public pour dire que cette situation est grave. l'OMIB est descendu, Oumaya.
Et la CIMAD et d'autres associations.
Ouais, la CIMAD et d'autres associations. Il y a eu un soutien extérieur hyper riche, quoi, hyper varié, hyper et sincère, quoi.
Si je peux dire juste un mot là-dessus, parce que il y a un incendie dans un immeuble, c'était ça le problème. Sauf que ce que j'ai senti moi avec un regard extérieur, je le répète, c'est que ce qui était réveillé, c'était pas l'immeuble, c'était tout le quartier. C'est-à-dire que le pourrissement de la situation dans le petit bar est arrivé à un point de non-retour. Et cet incendie a fait flipper tout le quartier. Ça veut dire que notre sort, ça va être le même à tous. Ça veut dire qu'on se trouve tous dans le même sac aujourd'hui. Il faut réagir. C'était une bombe dans le quartier, ce qui s'est passé. Les gens qui, depuis 30 ans, ne croyaient à rien, aujourd'hui, commencent à croire quelque chose et voilà. Et ils ont gagné.
Il y a des fantômes dans ma ville que dérangent les cris d'enfants qui trouvent le temps inutile si on le passe en s'amusant. Ils ont vu sur mon jardin et ils ont l'écho du son des barbecues des copains si l'on sort l'accordéon. Aux fantômes des villes nouvelles et de tes quartiers sans âme, de tes centres commerciaux sans ciel, de tes faux plafonds infâmes. Je m'enfuis pour une vie nouvelle où les marmots ne seront plus le prétexte d'une ribambelle d'idées loufoques et corrompues. Et si tu pries gentiment, tu nous juges et c'est méchant. Toi qui nous avais appris pourtant à ne pas perdre de temps. Aux fantômes des idées gratte-ciel ou doux rêveurs dépassés, tu voyais la grande citadelle, le paradis dans les cités.
Qu'est-ce qui a basculé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que cette mobilisation a fait changer les choses? Il y a des moments comme on perd pas toujours, on se mobilise bien souvent, on lutte, les associations arrivent, on essaye, des rendez-vous, des manifs, il y a eu des manifs dans Montpellier, etc. Qu'est-ce qui a basculé? Omeya Sedi.
Ce qui a basculé, c'est que... Enfin, ça a été le point d'arrivée d'une sorte de ras-le-bol, une sorte de y en a marre, y a basta, comme dirait l'autre. Il y a eu, donc, à partir du 13 juin, un mouvement très fort, avec une grosse mobilisation des habitants du quartier qui demandaient deux choses principales. La première chose, c'était en urgence, c'était le relogement immédiat de l'ensemble des familles de l'immeuble sinistré. C'était la première revendication. La deuxième revendication était un plan d'urgence pour la réhabilitation du quartier. La fin de cette première bataille, ce que les habitants ont considéré comme étant une victoire, est arrivée le 40e jour du décès de Houssine. Le 40e jour, c'est un jour important pour les musulmans. C'est le jour de la fin du deuil. Et le jour de la fin du deuil, on a vu arriver dans le quartier toutes les grandes personnalités concernées. On a vu arriver le ministre du Logement, le secrétaire d'État d'Aubresse, la maire de Montpellier, le préfet, le député d'Omergue et tout le gratin politique de Montpellier est venu au Petit Bar, a demandé à rencontrer le collectif de lutte du Petit Bar. Et a annoncé deux mesures. Ils ont annoncé qu'ils pliaient, c'est-à-dire qu'ils acceptaient de reloger dans des logements dignes l'ensemble des familles sinistrées. Et ils ont débloqué, ça peut paraître un petit peu incroyable, ils ont débloqué 85 millions d'euros pour un plan de réhabilitation du quartier.
Voilà, alors on croit rêver, ça c'est un aspect des choses. Effectivement, l'État et la mairie ont accepté de financer la réhabilitation de cette cité très dégradée, la cité du Petit Bar à Montpellier, 80 millions d'euros pour ce quartier. Pour les habitants, pour les militants, pour Mounsef et Abdennour, c'est cette lutte à... Bien sûr qu'on est content d'arriver à des choses, des résultats comme cela, mais ça, il y a une autre signification.
Bon, nous, on a posé une concertation, c'est-à-dire on a posé que les habitants prennent en charge, disent ce pourquoi ils veulent vivre. Il y a des gens qui veulent pas partir du petit banc, il y en a qui veulent partir. Tout ça, il va falloir l'entendre. Des murs, c'est des souvenirs, c'est une histoire. Et voilà, il faut tout ça le poser.
Il y a quand même un sentiment que les gens veulent prendre leur quartier en main, tout simplement. Est-ce qu'on va aller voir les 85 millions d'euros dans le quartier? Ça, c'est une grande question. Est-ce que ça va pas être éparpillé sur d'autres quartiers, par exemple? Comment ça va être géré? Qui va les gérer? Et comment? Et la population de Petit Bar, elle veut que cet argent soit investi dans le quartier. Si aujourd'hui le Petit Bar puisse s'organiser, l'avenir des quartiers populaires, ça serait un exemple extraordinaire, je pense, d'auto-organisation des quartiers et de sortie de ce système ghettoisation et de cette assistanat assez vicieuse, en fait. Samedi 9 octobre, il y a eu un collectif qui s'est monté par les habitants eux-mêmes, avec un coup de main qui était donné par plusieurs associations. Voilà, c'est ça. Je pense que ça donne un espoir, et c'est marrant, c'est de voir des retraités, des vieux, qui s'investissent à fond dans cette affaire, quoi.
Il y a un héritage qui s'assume plus, quoi. En fait, je crois qu'on a un peu tué le code de l'indigénat. Un peu, tu vois, un peu, on lui a mis un coup de canif, on va se battre pour l'abroger définitivement. C'est marrant, tu vois, les 21 familles, elles ont été relogées dans des quartiers à la paillade, quoi. La majorité, je crois qu'il n'y en a eu qu'un à Verbois.
Juste là-dessus, les familles qui étaient relogées, en fait, qui font plus partie du quartier maintenant. Ça y est, ils sont partis. Une grande partie d'entre eux font partie du collectif. Et ça, c'est impressionnant, quoi. Voir un vieux 70 ans maintenant dire « Ouais, moi je vais être dans le collectif, je vais être avec vous », ça veut dire que l'histoire va beaucoup plus loin que l'histoire d'un immeuble qui a cramé, quoi.
Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on prie. Et puis à l'autre, des carottes dans les cheveux, qu'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, et qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise à une fille de la ville, enfin d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches, on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas, on triche. Et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi, et du soir au matin. Tu savais qu'elle est l'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui mordit l'histoire, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands, et ça fait des grands. Et puis y'a la petite vieille qui en finit pas vibrer, et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est qu'à l'oseille. On n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, monsieur, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Monsieur, et les bandits. Ah oui, c'est dangereux, dangereux.
Merci à tous, merci à tous les habitants du Petit Bar à Montpellier, merci à Abdenour, à Montsef, à Omeya, du MIB et à Jean-Paul Nunez de la CIMAD. Reportage Olivia Gesbert, technique aujourd'hui Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, la musique c'est Yann Chouquet, le répondeur c'est Christophe Imbert et le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Pascal Le Pascariello, notre assistante, vous recommande de regarder ce soir, c'est ce qu'elle va faire en tout cas, sur Arte, la bataille d'Alger, le film de Giulio Pontecorvo qui, comme vous le savez, a été longtemps interdit en France, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse après la pub avec Frédéric Bonneau pour Charivari. À demain. Salut.